Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 11 février. Bonjour Anaïs Feugard.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, une aire marine protégée au pôle sud. Le président de la République devrait l'annoncer à Brest lors de la clôture du sommet sur les océans, sans dissiper pour autant les critiques. Dossier en début de journal, après les autres titres.
Jean-Luc Mélenchon pourrait soutenir les convois de la liberté qui veulent converger vers la capitale, vous l'entendrez dans ce journal. Un Français tué dans une attaque djihadiste au Bénin, le parquet antiterroriste ouvre une enquête. Au JO de Pékin, Tessa Worley, 19e du Super G, et François Ozon qui régale la Berlinale, son Peter von Kant projeté en ouverture hier soir.
Et les invités, les rendez-vous d'Inter ce matin à 7h15. Dernier épisode du feuilleton de la France à Clichy aujourd'hui, où vous le verrez, la parole des femmes de chambre se libère avec le mouvement MeToo. 7h45, après le discours d'Emmanuel Macron à Belfort, Thomas Piketty et Dominique Seux débattront de l'avenir énergétique de la France. 8h20, grand entretien avec Kamel Daoud et Raymond Depardon qui publie son œil dans ma main, Algérie 1961-2019. C'est aussi le nom d'une exposition à voir à l'Institut du Monde Arabe. Vous pourrez dialoguer avec eux, évidemment, le standard est ouvert, vous attend, 01 45 24 7000.
France Inter. Des eaux glacées de l'Atlantique Nord jusqu'au 50e hurlant des terres australes. La France détient le deuxième territoire maritime au monde et à ce titre se penche au chevet des mers. Clôture aujourd'hui à Brest des 3 jours du sommet sur les océans avec une trentaine de chefs d'État et de gouvernement autour du président français. Il y aura aussi l'émissaire américain John Kerry, Ursula von der Leyen ou encore le président égyptien qui accueillera la COP27 sur le climat en novembre. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour.
Vous êtes à Brest pour suivre ce sommet. Alors à quoi peut-on s'attendre? Un président défenseur des océans?
Oui, Emmanuel Macron veut endosser ici le costume de protecteur des océans, mais pas partout, pas à toutes les conditions. Il va annoncer l'extension d'une aire marine protégée au pôle sud, dans les terres australes et antarctiques françaises, autour de plusieurs îles. Cela permettra à la France d'avoir un tiers de sa surface maritime en aire protégée. La France a un temps d'avance par rapport aux engagements de l'ONU. Le président devrait également insister sur l'importance d'un futur traité contraignant sur le plastique, la lutte contre la pêche illégale, la gestion de la haute mer, mais il n'est pas question non plus de créer de grands sanctuaires où rien n'est permis. L'océan doit rester exploitable pour la pêche et pour les ressources minérales potentiellement utiles, selon l'Élysée, pour la transition énergétique, même si les scientifiques l'appellent à la plus grande prudence sur ce sujet.
Et en revanche, il y a des sujets qui fâchent et les ONG manifestent d'ailleurs ce matin à Brest.
Oui, a priori, parmi ces engagements de Brest, il n'y aurait rien sur la surpêche, un sujet pourtant important. François Chartier de Greenpeace dénonce un double discours du président.
Pour nous, ce qui est important de dénoncer, c'est qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on voit finalement, on reste quand même beaucoup dans du blabla et on attend des actes beaucoup plus concrets par rapport à l'agenda international sur les océans. Sur la surpêche, on a bien vu que, comme l'extraction minière, c'était un peu le sujet qui a discrètement été évincé de l'ensemble de l'agenda. Pas de table ronde ni de forme spécifiquement sur la surpêche ou sur la gestion des ressources halieutiques. Idem pour l'extraction minière. C'est les deux sujets qui ont été un peu punis de ce sommet.
Enfin, des ONG attendent des mesures pour la protection des cétacés. Sea Shepherd demande par exemple l'installation de caméras à bord des bateaux, mais elle n'est pas sûre de l'obtenir.
Célia Kiré à Brest pour France Inter. Fin du discours du président prévu aujourd'hui à 14h. Emmanuel Macron qui dicte son agenda sur l'environnement. Hier à Belfort, ses annonces sur le nucléaire, avec à la clé des financements publics massifs de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et le coup d'accélérateur affiché pour développer l'électricité solaire, multiplié par 10 la puissance installée d'ici 30 temps, dépasser les 100 gigawatts. C'est faisable, nous dit Daniel Bourg, le président d'Enerplan, syndicat des professionnels de l'énergie solaire.
On a fait une étude il n'y a pas longtemps qui justement se projette sur 2050. Et notre étude montre qu'on arrive même à des objectifs un peu supérieurs à ça, ce qui veut dire que effectivement, nous, cet objectif, on considère que c'est tout à fait réaliste à faire. Ça implique simplement effectivement une évolution sur comment faciliter le fait que les dossiers puissent aller le plus vite possible. On est très loin en France de nos confrères européens. Un projet en France de solaire met maintenant 4 ans. On va dans les autres pays européens, c'est moins de la moitié. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense qu'on n'a pas forcément donné les moyens à toutes les administrations départementales ou régionales pour justement traiter cet afflux de nouveaux dossiers solaires et que si on veut multiplier par 10 d'ici 2050, il faudra effectivement aussi donner des moyens à l'administration de traiter tous ces dossiers. Si on veut atteindre ces objectifs, il faut que ça change.
Daniel Bourg avec Thomas Giraudot. Jusqu'à présent, la filière du solaire a du mal à tenir son objectif de 20 gigawatts à la fin de l'année prochaine.
Il est 7h05, 7200 policiers et gendarmes mobilisés à Paris ce week-end.
La préfecture de police anticipe un éventuel rassemblement de ceux qui se proclament convoi de la liberté. Des dépanneuses sont déjà prêtes pour emmener à la fourrière toute voiture qui bloquerait la circulation. Si les gens veulent manifester normalement, ils pourront le faire, dit le ministre de l'Intérieur. S'ils veulent bloquer, on interviendra. Mouvement inspiré des routiers canadiens qui, depuis deux semaines, demain, paralysent le centre-ville de la capitale et voient d'un œil intéressé que leur cause fait tache d'huile. Sébastien Paour a rencontré l'une de ses inspiratrices.
Joanie Pelchat se présente comme la capitaine du Québec pour le convoi de la liberté 2022, l'une des organisatrices de ce rassemblement de camionneurs opposés aux contraintes sanitaires.
Ça a débuté en fait avec simplement un groupe de camionneurs. J'ai embarqué dans l'aventure et aujourd'hui c'est la planète entière qui nous soutient, nous, notre cause, mais eux aussi dans leur propre pays. Je trouve que c'est juste magnifique.
La jeune femme s'est installée à l'hôtel à Ottawa avec son compagnon et leur fille pour répondre aux nombreux journalistes présents dans la capitale. Elle a que certains l'appellent de France, mais elle n'a pas eu de contact avec les instigateurs d'un convoi similaire vers Paris. Elle lance néanmoins un appel à tous les émules que les Canadiens pourraient faire.
J'ai besoin que tout le monde se mobilise. Donc moi, j'appelle toute la population de notre belle planète bleue de se lever tous ensemble et de venir nous rejoindre ici à Ottawa. Parce que c'est à Ottawa, ici, présentement, que si nous gagnons la bataille de notre liberté, ça va être en fait pour tout le monde sur la planète. Ça va rejoindre tout le monde.
Joanie Pelchat souhaite mobiliser les routiers. Elle reconnaît que les blocages seraient moins efficaces sans leurs camions. Mais plus largement, dit-elle, tous ceux qui, comme elle, n'ont rien contre les vaccins, mais veulent juste avoir le choix. Ottawa, Sébastien Paour, France Inter.
En France, pour l'instant, on compte au total dans les différents convois un millier de véhicules. Chiffre fluctuant, difficile d'estimer la réelle mobilisation. Les revendications aussi sont mouvantes, mais Jean-Luc Mélenchon semble les avoir bien comprises. L'insoumis hier soir sur France 2 avec Léa Salamé y décèle des convergence avec ses propres combats.
Moi, j'entends deux choses. D'abord, je commence par écouter ce que racontent les gens. Avant d'avoir décidé qu'ils sont anti-vax, fascistes, antisémites et tout ce qu'on nous a fait pour les gilets jaunes. Voilà des gens qui se mettent en mouvement en parlant de pouvoir d'achat. Je peux quand même pas être contre ça. Ne croyez pas qu'ils se mettent en voiture à 2 euros le litre par plaisir. Bon. Deuxièmement, ils disent qu'ils sont contre le pass vaccinal. Moi aussi, je vais pas aller leur dire que non, ils ont tort.
Donc vous pouvez, vous pourriez manifester avec eux.
Ah ben, je pourrais les soutenir, oui, bien sûr. Je vais voir comment tout ça se met en place, ce qui se passe. Mais vous savez, ce qu'il faut bien comprendre dans les mouvements d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'appartiennent à personne.
Jean-Luc Mélenchon, qui est au dernier pointage, a recueilli 258 signatures sur les 500 parrainages indispensables avant le 4 mars. Très loin derrière Valérie Pécresse, championne des parrainages avec près de 1250. Et pourtant, la candidate LR n'est pas à la fête. Après la défection des ex-ministres Catherine Vautrin et Éric Woerth, la maire Les Républicains de Calais, Natacha Bouchard, annonce elle aussi rejoindre le camp Macron. Ce n'est pas un choix contre Valérie Pécresse, dit-elle dans Le Figaro, mais elle remercie le ministre de l'Intérieur pour son aide dans la gestion des migrants. Décision qui ne surprend pas le député LR du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont.
Natacha Bouchard n'était pas très impliquée, n'était plus en tout cas très impliquée depuis quelques années dans les instances du parti, était vraiment 100% dédié à sa commune, à l'amélioration de la vie de sa ville, qu'elle a profondément changé. Et donc, c'est pas le même retentissement comme on a pu voir avec M. Woerth il y a quelques jours. C'est absolument pas pareil. Là, c'est un choix qui est guidé uniquement, je pense, par l'intérêt qu'elle estime être celui des habitants de la commune. Je peux le comprendre, mais c'est pas une trahison dans la mesure où, je vous le dis, au niveau de chez LR, elle n'était quasiment plus du tout impliquée.
Pierre-Henri Dumont avec Farida Noir. Natacha Bouchard est une proche de Nicolas Sarkozy avec lequel la candidate LR Valérie Pécresse a rendez-vous ce matin avant son grand meeting dimanche à Paris.
Il est 7h09 et le propos est sans ambiguïté.
Joe Biden cette nuit demande aux Américains de quitter l'Ukraine. Maintenant, les choses pourraient vite s'emballer, dit-il. Il répète qu'il n'enverra pas de soldats américains sur le terrain en Ukraine face à l'armée russe car cela pourrait déclencher une guerre mondiale, ce sont ses mots. En France, le parquet national antiterroriste terroristes ouvrent une enquête après la mort d'un Français au Bénin pris dans une embuscade meurtrière dans un parc naturel dans le nord du pays, à cheval sur les frontières avec le Burkina Faso et le Niger. L'attaque attribuée à des groupes terroristes a fait au moins 6 morts. C'est la plus meurtrière au Bénin, les précisions de Thibault Lefèvre.
L'homme de 50 ans était un instructeur, un ancien militaire en mission auprès des Rangers en charge de la protection du parc animalier. Selon l'ONG de défense de l'environnement African Parks, il est mort avec au moins 5 gardes forestiers et un soldat béninois. Une dizaine de personnes ont été blessées. L'embuscade s'est déroulée près de ce qu'on appelle le point triple à la frontière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais l'insurrection djihadiste très présente au Sahel s'étend depuis plusieurs mois vers l'Afrique occidentale. Et selon les spécialistes, la Katiba Massina liée à Al-Qaïda renforce son emprise dans la région. Il y a un peu moins de 3 ans, 2 Français ont été enlevés dans un autre parc, toujours au nord du Bénin. Ils avaient été libérés dans une opération qui avait coûté la vie à 2 soldats français.
La menace djihadiste en direction du sud du Sahel, on en reparlera tout à l'heure avec Pierre Aski après le journal de 8h. Pas touche au jardin d'Aubervilliers, même si c'est pour les JO de Paris. La justice a invalidé hier soir le plan d'urbanisme qui permettait de détruire une partie de ces jardins ouvriers centenaires en vue d'y implanter une piscine d'entraînement pour les JO 2024, car il porte atteinte à la biodiversité. Le permis de construire reste valable, estime le maire PS de l'intercommunalité. Des JO bien plus proches, ceux de Pékin, les derniers de Tessa Worley, annonce la skieuse qui vient de rater complètement le Super G, sortie de piste dans sa discipline favorite. 3e française avec une 19e place, si loin de l'or olympique rêvé, seul titre qui manque encore à l'un de ses plus grands palmarès du ski français. Encore une chance demain sur le parallèle par équipe mixte. Et puis en football, Nantes disputera la demi-finale de la Coupe de France face à Monaco début mars à la Beaujoire. Les Canaries vainqueurs hier de Bastia 2-0. Entre currywurst et test anti-Covid, l'ouverture de la Berlinale hier soir et une plongée dans l'esprit des années 70 à Berlin avec le film de François Ozon, Peter von Kant, tiré d'une pièce de Fassbinder, où un metteur en scène fantasque tombe amoureux d'un jeune homme aux origines modestes, Alexis de Meyer.
Il y a 22 ans, un tout jeune François Ozon présentait à Berlin son 3e long métrage, Goutte d'eau sur pierre brûlante, l'adaptation d'une pièce de Fassbinder. Hier soir, il a remis ça, adaptant cette fois-ci Larmes amères de Petra von Kant. Chez Ozon, Petra devient Peter, cinéaste, excessif et alcoolique, interprété par un Denis Ménochet très inspiré. Si le dispositif minimaliste, un huis clos dans l'appartement de Peter à Cologne, est un peu étouffant au début, ce film confiné finit par nous emporter. La cruauté qu'affectionne tant François Ozon ne l'empêche pas d'interroger brillamment la sincérité des rapports amoureux. Personnifié ici par la relation sulfureuse entre le riche quadra Peter et le jeune et pauvre Amir. Et même si Ozon reste fidèle à la forme théâtrale du texte d'origine, il met énormément de cinéma dans sa mise en scène. Son film est hanté par le fantôme de Fassbinder qui avait reçu en 82 à Berlin un ours d'or seulement 4 mois avant sa mort. Décidément, la présence de ce Peter von Kant à la Berlinale sonne comme une évidence.
Comme au théâtre. Comme au théâtre.
Peter von Kant avec Denis Ménochet et Isabelle Adjani, mais on ne connaît pas encore la date de sortie en France.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le feuilleton de la France. Épisode 10. MeToo, parole de femme de chambre, c'est à Clichy, dans les Hauts-de-Seine.